Entrons ensemble dans notre tendu débat consacré ce soir à la communication publique sur la Covid. À l'ordre du jour ce soir, 6 mois de pandémie, le gouvernement cherche-t-il encore sa communication? Tout au long de la semaine dernière, la tension est montée autour du Conseil de défense qui devait se tenir le vendredi. Devait-il durcir, restreindre les déplacements dans certaines régions, voire annoncer des mesures plus difficiles encore? Au vu de telles prémices, les déclarations du Premier ministre vendredi sont apparues en deçà des attentes, pointant un des paradoxes de cette crise. Nous voulons plus de marge de manœuvre pour chacune et chacun d'entre nous, tout en demandant souvent à l'État une protection plus globale encore. Il faut dire que depuis 6 mois, le feuilleton du masque, de ses usages et de ses mésusages, mais aussi la question non résolue, y aura-t-il un vaccin à Noël, nourrissent des attitudes de défiance vis-à-vis des politiques publiques pour lutter contre le Covid. Nous allons en parler avec nos 3 invités, avec Thomas Meynier. Bonsoir Thomas Meynier.
Bonsoir.
Vous êtes député LREM de Charente et médecin urgentiste, rapporteur général de la commission des affaires sociales depuis fin mai. Avec nous, Caroline Olivier Yaniv, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes politologue, professeur à Paris-Est Créteil et co-directrice du CEDITEC. C'est quoi le CEDITEC ?
C'est une unité de recherche où on travaille particulièrement sur les discours et la communication des institutions.
Voilà, ça tombe bien pour l'émission de ce soir. Et avec nous également, Christian Lehmann, bonsoir, vous êtes en studio avec nous.
Bonsoir.
Vous êtes médecin généraliste à Poissy, dans les Yvelines, vous êtes écrivain et chroniqueur régulier pour Libération et vous avez tenu justement un journal d'épidémie dans ce même journal.
Je n'ai pas à commenter des propos qui sont tenus par le Conseil scientifique. Et je crois qu'il est bon que ce conseil ait une liberté qui est celle de l'expertise scientifique. Et après, il y a des dirigeants qui sont démocratiquement élus, qui prennent des décisions pour la vie du pays. Nous ne sommes ni dans le gouvernement des scientifiques, ni dans le gouvernement de l'à peu près. On est éclairés de manière transparente, et vous avez l'information en même temps que nous, par un conseil scientifique. Il y a aussi des directions du ministère de la Santé qui travaillent. Et puis ensuite, nous avons des décisions à prendre.
Voilà, vous avez reconnu évidemment Emmanuel Macron, le président de la République. C'était le 10 septembre dernier, conférence de presse depuis la préfecture d'Ajaccio. Il répondait bien sûr à une question de BFM Télé sur l'annonce de Jean-François Delfraissy, le président du Conseil scientifique, selon laquelle le gouvernement devrait prendre des décisions difficiles dans les 10 jours. Mais nous ne sommes ni le gouvernement des scientifiques, ni le gouvernement de l'à peu près, disait Emmanuel Macron en fin de semaine dernière. Thomas Meynier, est-ce que vous avez perçu, en tant à la fois que médecin et député, est-ce que vous avez perçu une sorte de flou dans la communication gouvernementale pourrait être retombé auprès des gens que vous croisez, les électeurs et d'autres qui ne savent pas très bien parfois à quel sein se vouer et quoi faire justement vis-à-vis de cette épidémie, de cette pandémie qui continue à exister dans notre territoire et qui redémarre de plus belle?
Écoutez, je crois que la communication par rapport à ce virus et à cette pandémie est allée au rythme de notre connaissance de ce virus et de la progression de l'épidémie. Il faut se rappeler qu'il y a quelques mois, on ne connaissait pas ce virus, qu'on le connaît un petit peu mieux aujourd'hui, mais qu'il nous reste encore un certain nombre de zones d'ombre le concernant, et que toutes les décisions prises l'ont été au regard des connaissances du moment de la science, des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, et toujours, c'est vrai, et ça peut entraîner une certaine anxiété, mais une transparence la plus grande possible pour donner à chacun l'information sur ce virus et la progression de celui-ci.
Mais on peut comprendre néanmoins, Thomas Meynier, que quand on entend un président de conseil scientifique dont un ministre dit dans des propos de couloir qu'il se protège en mettant ceinture et bretelles, donc en disant il va falloir prendre des décisions très difficiles, et un président de la République et ensuite un premier ministre qui le contredisent en grande partie, que le public qui attend un moment comme celui que nous attendions tous et toutes vendredi dernier puisse être un peu perdu entre volonté de serrer la vis ou attente d'une vis un peu plus serrée, et puis de l'autre côté, soyez responsable, faites ce que vous pouvez.
J'ai envie de dire que sur la communication, c'est comme dans la tenue des gestes barrières et dans le port du masque quand cela est nécessaire, il s'agit de la responsabilité de chacun. En l'occurrence, on attend du conseil scientifique qu'il éclaire les prises de décision du gouvernement, de l'exécutif, pas nécessairement qu'il sorte dans les médias au rythme qu'il choisit, parce que justement, ça peut brouiller, et un certain nombre de prises de position de médecins reconnus jusque-là, qui ont pu être contradictoires parfois, ont, c'est une réalité, jeté le flou parfois sur la connaissance du virus, sur la connaissance d'éventuels traitements, et ça a mis en difficulté un certain nombre de communication et de décisions de communication, enfin de communication de décisions prises, ça les a rendus difficiles.
Christian Lehmann, quand vous avez dans votre cabinet à Poissy, dans les Yvelines, des patients qui viennent vous voir, ils ont une foi envers qui ? Envers la parole de votre parole de médecin généraliste, celle d'un ministre, d'un président de conseil scientifique, comment font-ils le départ entre ce qu'il faudrait faire comme attitude pour pouvoir se protéger, protéger les siens et éviter d'être porteur d'un virus qui touche d'autres personnes, Christian Lehmann?
C'est une question très compliquée parce que les choses ont évolué au fil du temps.
Oui.
Au départ, les gens ont été saisis.
Saisis par la peur ?
Saisis par l'inquiétude. Et ils ont essayé de se raccrocher à des voix ou à des gens qui pouvaient incarner une forme de vérité. On l'a vu au moment où la France a été frappée par des attentats. Les gens attendaient, on va le nommer, la parole de François Molins. Et la manière de dire... Le choix, une certaine dignité, une transparence, alors même qu'il y avait des choses qu'il fallait masquer, parce qu'elles étaient de l'ordre de la sécurité nationale, était incarné dans un homme, mais moins que dans un homme, parce que les hommes providentiels, j'y crois moyen, elle était incarnée dans
une attitude ?
Une attitude que je qualifierais d'orwellienne, au bon sens du terme. Orwell disait que voilà que tout ce qui n'est pas une information qu'on voudrait vous cacher, c'est juste de l'entertainment, c'est pour faire joli. Il y a des choses que vous devriez savoir pour pouvoir réfléchir et agir en homme digne, et c'est l'information qu'on vous doit. Là, on a eu des balbutiements. Alors, je suis d'accord avec Thomas Meynier que c'est une maladie qui émergente, qui arrive, mais le problème, c'est qu'on est parti sur des mensonges originels. Et ensuite, c'est très, très difficile. C'est-à-dire, quand vous mentez, il faut se souvenir du mensonge de la veille. Et je ne connais pas un patient depuis 8 mois qui ne soit pas persuadé que le gouvernement, d'emblée, a menti sur quelque chose de très important, qui était la question des masques. Et entendre des mois après Emmanuel Macron dire « mais il n'y a jamais eu de question de pénurie de masques », c'est quelque chose... avec d'autres mensonges de cette nature, qui a plombé complètement la communication gouvernementale, même lorsqu'elle veut se mettre à hauteur des gens.
Caroline, Olivier Yanniv, vous qui êtes spécialiste justement de communication publique et qui travaillez en tant que politologue sur cette question-là, est-ce que vous pouvez donner un élément supplémentaire dans l'analyse justement de cette longue durée, de ces 6 mois, 6, 7 mois qui sont derrière nous, avant évidemment le confinement, mais après, de savoir comment on gère une crise comme celle-ci au moyen de la communication publique.
Oui, la question de la durée est intéressante, mais si on repart sur l'extrait du discours d'Emmanuel Macron qui était
le plus récent,
qui est le plus récent effectivement, il est extrêmement intéressant au sens où il me semble tout à fait représentatif de tas de moments dans cette période assez longue, maintenant 6 mois, où en fait on s'aperçoit qu'il est extrêmement difficile pour le pouvoir exécutif et l'institution gouvernementale de parler d'une seule voix. Et moi, je considère que la communication gouvernementale, elle se cherche en permanence. D'ailleurs, il y a un organisme qui est chargé de sa coordination et qui arrive plus ou moins, et qui arrive d'autant moins...
Le service d'information gouvernementale.
Voilà, notamment le service d'information du gouvernement, qui fait partie du secrétariat général du gouvernement, qui est le bras armé du Premier ministre. Mais disons que dans une période de crise comme celle où qu'on traverse actuellement, période de crise, ça veut dire quoi en l'occurrence ? Ça veut dire effectivement que les responsables du pouvoir exécutif doivent prendre des décisions sur des faits ou des données de la science qui ne sont pas, pour une partie d'entre elles, complètement attestées. Ça veut dire aussi que la difficulté de parler d'une seule voix, elle vaut à des séquences, elle vaut pendant des séquences particulières. On a eu des séquences comme ça de cacophonie qui sont classiques de la communication gouvernementale, si tant est qu'on considère qu'elle existe, quand par exemple le ministère de l'Éducation nationale annonce des choses.
Ils sont contredits.
Alors qu'il va être contredit parce que c'était trop tôt. Voilà, donc tout ça peut s'expliquer. Un gouvernement, c'est un collectif qui n'a pas de chef hiérarchique. Le Premier ministre n'est pas le supérieur hiérarchique des ministres. La médiatisation a pris énormément de place dans le travail politique. Certains ministres ont un capital politique et médiatique très fort. Et à l'évidence, il y a eu des tas de séquences où les ministres ont parlé trop tôt. Et là, on a une autre séquence où c'est la question de comment parler d'une seule voix entre les acteurs politiques et un responsable de conseil scientifique, lui aussi médiatique, pour des tas de raisons, qui se pose à nouveau et qui induit un nouveau moment de cacophonie forte.
Thomas Meynier.
Oui, pardon, j'ai un petit peu d'écho et je suis un petit peu en décalé avec vous.
Excusez-nous, mais on va essayer de régler ça, mais je ne sais pas comment faire. On va voir si on y arrive. Oui, qu'est-ce que vous voulez rajouter à ce qui était dit à l'instant même par Christian Lehmann et par Caroline Olivier-Yaniv, c'est-à-dire effectivement la cacophonie, l'impression de ne pas savoir à qui se vouer quand on était un citoyen qui écoutait régulièrement la télévision, lisait les journaux, écoutait la radio.
Par rapport à la dernière intervenante, effectivement, on est pris dans l'immédiateté au quotidien, dans l'immédiateté des réseaux sociaux, dans l'immédiateté des chaînes d'infos en continu. Et c'est vrai qu'il a pu arriver que un ministre soit contredit quelques heures, parfois quelques minutes après son intervention, par un autre membre du gouvernement, parce que tout va très vite et qu'il faut maintenir un temps, être le temps, le gardien des horloges, comme on a pu le dire, pour se coordonner au mieux. Reste que je crois que, de façon globale, toutes les informations sont données au quotidien, concerté au quotidien.
Mais prenons un exemple très simple, Thomas Meynier. Un exemple que j'avoue ne pas avoir compris. Je pars en vacances fin juillet. À l'époque, on a encore des chiffres de morts d'abord qui arrivent en premier, ensuite des chiffres de réanimation, puis ensuite des chiffres de tests, de gens testés, etc., de cas positifs, etc. Je reviens de vacances quelques trois semaines plus tard à peine. Je ne vois plus les chiffres de morts dans les premiers chiffres qui sont donnés, je ne vois plus les chiffres de réanimation, je vois d'abord les chiffres de cas testés, etc. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que on ait changé de cheval en cours de route, d'une certaine façon? On aurait pu l'expliquer, et ça s'explique, puisque les très bons spécialistes de l'épidémie nous expliquent pourquoi ça n'est plus, comme Jérôme Salomon annonçant tous les soirs, le directeur général de la Santé, au mois de mai, par exemple, le nombre de morts. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas en place, justement, une pédagogie vis-à-vis du citoyen que nous sommes, les uns et les autres, sur cette question, c'est-à-dire simplement, quelle est la hiérarchie de ce qu'il faut présenter pour comprendre une pandémie?
Je crois que ça a été fait au moment où, justement, il y a eu un changement dans la communication, que le gouvernement a pu expliquer à ce moment-là, qu'on a arrêté les points quotidiens avec Jérôme Salomon, comme vous avez pu le rappeler, parce qu'on était dans on avait fini la phase du confinement, qu'on était dans le déconfinement, qu'on essayait de reprendre un certain nombre d'activités dans une situation le plus proche possible de la normale. Que du fait du confinement, la situation sanitaire s'était améliorée et, comme vous l'avez dit, des experts du virus et en infectiologie ont pu expliquer les choses.
Et sur ce point, Christian Lehmann, il y a effectivement ce qui est de la communication publique gouvernementale. Il y a aussi les journalistes qui font leur travail à côté. Il y a ce que vous appelez les guignols de plateau qui sont très fréquemment sur des chaînes en continu pour pouvoir donner leur avis et qui brouillent aussi tous ces messages. Et donc, dans votre cabinet, vos patients, ils suivent les uns, ils suivent les autres, ils changent de casaque en disant « c'est plutôt un tel qui me paraît soit fiable, soit sympathique ». Comment analysez-vous ça, Christian Lehmann, de là où vous êtes, avec le métier que vous faites, c'est-à-dire médecin généraliste?
Alors, je ne sais pas comment répondre. Je dirais que s'ils viennent chez nous, s'ils viennent chez leur médecin généraliste, c'est parce qu'ils ont confiance dans la personne qui les a suivis bien sur sûr. Le long terme. Malheureusement, cette confiance, elle est basée sur des faits, mais elle est aussi basée sur des impressions. Il y a des médecins généralistes, et on le voit tous les jours, qui considèrent que l'expérimentation humaine en mode YOLO, tiens, laissez-moi prescrire de l'hydroxychloroquine parce que je le veux bien, c'est une façon de faire de la médecine, et c'est catastrophique. On a une collègue qui explique que les masques sont une vaste conspiration gouvernementale et qu'elle, elle est en gros en direct avec le Seigneur qui explique que... voilà. Enfin,
je rappelle que vous êtes avec vos masques parce qu'on est dans un studio fermé et qu'il n'est pas aéré et que vous dites par exemple, un des points d'une communication gouvernementale qui s'assumerait, c'est de dire vivez le plus possible avec les fenêtres ouvertes.
Oui, je sais pas pourquoi il a fallu que ça soit dit par... j'ai envie des clampins de base, des médecins comme moi dans Libération ou autre, et que pendant des mois et des mois, on a continué à nous dire qu'il fallait qu'on tousse dans notre coude.
Et quand, bien.
Non mais très bien, mais
on a appris quelque chose.
Ouais, ok, mais plus important que de tousser dans son coude, vivez la fenêtre ouverte parce qu'il y a un risque d'aérosolisation. Et vous entendez aujourd'hui des gens, entre autres au ministère de la Santé avec qui je suis en contact, qui me disent oui, effectivement, l'aérosolisation et tout. Mais il a fallu se battre pendant 6 mois. Or, ça fait depuis le 23 mars, on a des études de cas dans une chorale aux États-Unis qui laissent penser que l'aérosolisation, c'est-à-dire la capacité pour quelqu'un qui parle, qui chante ou qui crie, de créer autour de lui petit à petit un nuage qui peut être infectant, qui va être balayé si les fenêtres sont ouvertes et sinon, cette idée d'aérosolisation, il a fallu 7-8 mois pour qu'elle commence à arriver. Et tout à l'heure, je regardais dans les couloirs de France Culture, dans les ascenseurs, il y a tout marqué, mouchez-vous, jetez le truc. Il n'y a toujours pas marqué d'ouvrir les fenêtres.
Et rassurez-vous, on le fait.
Non, mais ce n'est pas possible et ce n'est pas facile pour vous à l'intérieur d'un studio. Mais en général, qu'il faille 8 mois pour dire aux gens quelque chose de positif, qui n'est pas négatif, qui n'est pas vivre avec un masque sur la figure, mais aérer autant que possible, ça pose quand même un problème. De savoir que quelque chose qui serait audible par les gens, qui leur donnerait l'impression de mieux maîtriser les choses et diminuer les risques, ne leur est pas dit.
Caroline Olivier-Yanni.
Oui, on aborde un autre aspect qui est lié au fait que, évidemment, la communication des ministres, pour ne pas parler de la communication du gouvernement, elle se place dans des arènes publiques, dans des médias où d'autres personnes parlent. Et une des caractéristiques de ces débats, voire de ces polémiques, c'est, vous l'avez dit tout à l'heure, Emmanuel, c'est l'expertise, le degré d'expertise, de technicité.
À qui se fier, d'une certaine façon.
Avec, en plus, le fait que, finalement, ça, je pense que c'est probablement, faudrait le vérifier évidemment, mais une des particularités des débats publics, c'est que les ministères, Matignon, etc., ont beaucoup moins joué le rôle de définisseurs primaires, ce qu'on appelle en sociologie des médias le définisseur primaire, qui sont souvent des institutions gouvernementales, parce que ce sont souvent les seules organisations qui ont une info solide, attestée, étayée, etc. Là, ça n'a pas été le cas, parce qu'on avait une précarité de savoir sur un certain nombre de sujets, même si ça s'est résorbé, parce que les scientifiques ont bossé. Mais on a eu, dans l'espace public, dans des médias grand public, une transposition de controverses qui sont des controverses scientifiques qui se déroulent dans le monde de la science quotidiennement, dans les colloques, dans les revues, mais qui, transposées dans des médias grand public, ont donné des résultats extrêmement
C'est le cas de la pétition de ce week-end, justement, enfin, ou d'un peu avant le week-end, signée, on l'a entendu ce matin, par Pierre-Henri Gouillon et d'autres, disant arrêtez de foutre la trouille aux Français, d'une certaine façon, qui, effectivement, vient à point nommé pour certains, en disant, bah oui, peut-être on en a marre d'entendre tous ces messages de peur, pour d'autres qui disent, mais c'est totalement irresponsable de dire cela. On voit bien effectivement que ces allers-retours de communication qui viennent de personnalités dont on peut penser qu'elles sont tout à fait respectables sur le point de vue scientifique ne rendent pas facile pour les citoyens le fait de s'en tirer, justement, Christian Lehmann.
Alors, le problème, c'est qu'on est arrivé dans un... C'est une guerre d'égo. C'est une, non pas une guerre des Gaules, mais une guerre d'égo.
C'est l'écrivain qui parle.
Non, mais trop de tribunes tuent la tribune. C'est-à-dire que chacun veut être celui qui va être invité sur BFM TV, plus CNews, plus RT France, etc. dans la journée. Donc, il faut y aller. Alors, on caricature. D'un côté, il y aurait les ayatollahs, qui voudraient que les gens ne respirent plus et restent chez eux sans bouger. Hein. Et de l'autre côté, il y aurait les partisans de la liberté, qui disent, bon, non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. On a un gouvernement qui, à cause d'une politique économique qui est suivie depuis des années, qui est de faire des économies, a fait des économies sur quelque chose qui semblait ne pas poser problème et qui se révèle être une catastrophe absolue. C'est-à-dire que les mêmes personnes qui étaient fières d'avoir fait des économies pendant 10 ans en rognant 1 milliard d'euros sur les masques ont foutu en l'air l'économie de ce pays et ce pays pendant des années à hauteur de centaines de milliards d'euros. C'est le mensonge originel qu'il faut cacher. Je veux dire, quand on a à la télévision tous les jours le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, qui est l'homme qui, un an auparavant, reçoit un avis d'expert de 70 pages disant qu'il faut absolument refaire le stock de masques et qu'il ne fait rien. Quand, dès le départ, on dit « vous inquiétez pas, il n'y a pas de pénurie de masques » alors que les gens vont s'en rendre compte, ben on part perdant. Et à partir de là, vous avez des professeurs Raoult qui arrivent et qui vous disent qu'il a trouvé comment sauver le monde parce que c'est l'infection respiratoire la plus facile à traiter de la planète, ce qui est totalement faux. Et au final, des tribunes qui sont faites par des médecins qui veulent faire passer des informations et qui finissent par s'annuler. Parce que personne ne sait à qui il faut croire.
Vous écoutez le temps du débat, un temps du débat consacré à la communication autour de la Covid, en particulier la communication publique. Il est 18h42.
Qui doit-on mettre sur cette liste? On met toutes les personnes avec qui on a été en contact proche, les 2 jours avant le début des premiers symptômes et après.
Si on est sur la liste d'une personne malade, il se passe quoi?
L'assurance maladie nous appellera pour nous demander de nous isoler et pour nous demander de nous faire tester.
Les enfants, à table!
Mais ils vont où, là?
Bah, se laver les mains.
S'il est en tissu, je garde le masque dans le sac fermé, en attendant de le laver dès que possible à 60 degrés, pendant au moins 30 minutes.
France Culture.
Puis, je me lave bien les mains de nouveau.
Le temps du débat.
Pour le séchage, je respecte la notice du masque.
Emmanuel Laurentin.
Si je n'ai pas d'instruction, j'utilise de préférence un sèche-linge ou je laisse sécher le masque à l'air libre.
Voilà, vous êtes en train d'écouter le temps du débat sur France Culture. Thomas Meynier, par exemple, ce dernier message gouvernemental sur les 60 degrés nécessaires pour pouvoir laver son masque en tissu, on a cru comprendre la semaine dernière, d'autres voix nous disaient bah, ça n'est plus la peine de les laver à 60 degrés. Enfin, c'est pas très grave, a priori, mais en tous les cas, ça veut dire que vous l'avez dit tout à l'heure, la connaissance avance et qu'en avançant, on change la communication. C'est bien normal, mais cela peut créer du trouble.
Cela peut créer du trouble, c'est une certitude. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut rappeler, dès qu'on le peut, que la vérité d'aujourd'hui n'est pas forcément celle d'hier et n'est pas forcément celle de demain. Si on doit se fier à quelqu'un dans les prises de parole publiques, je penserai en premier lieu à Olivier Véran, le ministre des Solidarités et de la Santé, bien évidemment au président de la République et au Premier ministre, qui sont les plus au fait et prennent les décisions qui sont nécessaires au quotidien.
Après, mais vous savez bien que dans un contexte, disons, de fragilité, c'est le moins qu'on puisse dire, de la parole publique et de la parole gouvernementale, ce que vous dites est un acte de foi. C'est tout à fait logique de dire quand on est député LREM de Charente et puis rapporteur général de la commission des affaires sociales, comme vous l'êtes. Mais néanmoins, il y a une partie de la population qui ne veut pas ou qui ne peut pas entendre ce que vous êtes en train de dire là, que la parole légitime, c'est celle du président de la République et des élus. Ça ne veut pas dire qu'ils ont raison, mais ça veut dire que c'est compliqué.
Je veux bien entendre que ce soit compliqué, mais je crois que ça doit être non seulement un député LREM de Charente, mais à n'importe quel député élu et responsable politique ou public, que de dire qu'il tombe sous le sens qu'on peut faire confiance au ministre de la Santé dans ce pays. On est là devant une crise sans précédent. On est aussi depuis des années devant une crise démocratique de la confiance. J'ai même d'ailleurs conscience d'avoir été élu sur cette crise de défiance démocratique. C'est justement de notre responsabilité, par un discours le plus transparent possible, le plus cohérent autant que faire se peut quand on sait qu'on découvre au fil du temps un peu plus de choses sur ce virus, de renouer la confiance. Mmh. Par ce discours.
Est-ce qu'il n'est pas paradoxal, Caroline Olivier-Yaniv, effectivement, qu'une partie de la population veuille se libérer de la tutelle de l'État tout en demandant sa protection? C'est-à-dire qu'on voit bien combien aujourd'hui on aimerait bien avoir moins de contraintes dans nos vies personnelles, ne pas porter le masque quand on le souhaite, etc. Et puis de l'autre côté, réclamer, ce qui est normal, la protection de l'État. Est-ce qu'il n'y a pas un hiatus là-dedans?
Oui, oui, il y a un paradoxe, très clairement, qui, moi, me semble d'autant plus important que de mon point de vue, et du point de vue d'analyse, de discours politique, il est au cœur du discours dominant de la prévention en France. Et on en retrouve la manifestation, là, dans la crise actuelle liée au coronavirus, c'est-à-dire que le discours dominant sur la prévention en France, il est travaillé par une injonction à la responsabilisation individuelle. Mmh. Sauf que cette injonction à la responsabilisation, ses limites sont bien connues par les travaux en sciences sociales qui savent que selon là où on est dans la société, on développe une adhésion ou des résistances ou des contournements. Mais ça, on a l'impression que les pouvoirs publics n'en tiennent jamais compte. Le meilleur exemple, c'est quand même le dernier spot qui est très scénarisé, qui vise à faire peur aux gens, enfin en tout cas à susciter de l'émotion sur la contamination.
Il faut rappeler que ce spot, effectivement, ressemble à un spot de la prévention routière. C'est-à-dire,
voilà,
effectivement,
c'est
on veut embrasser sa grand-mère ou sa mère et puis elle finit sur un lit d'hôpital.
Pour prendre cet exemple, on est dans la contradiction totale parce que ce qui est montré dans ce spot, ce sont en fait des occasions de contamination qui n'arrivent pas dans la vraie vie. C'est les jeunes se contaminent. Ok, enfin moi je suis universitaire, on sait que nos étudiants font des fêtes parce qu'il n'y a pas de réunion d'intégration, machin, enfin, et parce qu'on fait des fêtes quand on a 20 ans. C'est pas à la sortie du lycée qu'on se fait la bise et qu'on se contamine. Donc ce spot est à côté des pratiques sociales. Et la dernière chose, c'est que cette injonction à la responsabilisation, non seulement elle manque une partie des citoyens, elle manque une partie des individus, donc c'est plus un discours d'intérêt général, et c'est un discours qui est toujours construit tout en haut de la pyramide, dans l'administration centrale, et sans concertation avec les associations de patients, sans concertation avec les populations.
Oui, c'est ce que disait d'ailleurs hier William Dabb dans son interview, l'ancien directeur général de la Santé, dans son interview au Journal du Dimanche. Il faut un vrai débat démocratique, il faut que tout le monde puisse participer à ce débat, parce que sinon, effectivement, ça tombe d'en haut, et on est censé, parfois, ne pas respecter la parole qui vient d'en haut, Christian Lehmann.
Tout à l'heure, Thomas Meynier a fait preuve de loyauté et a soutenu son ministre de la Santé en disant mais à qui faire confiance sinon au ministre de la Santé. Prenons l'exemple d'Olivier Véran. C'est un jeune médecin qui est compétent, qui est intelligent, qui arrive avec un immense capital de sympathie. Il arrive après le désastre du départ d'Agnès Buzyn, avec cette communication délirante où elle a envie de la mairie de Paris qui va se révéler un désastre politique pour elle. On se retrouve avec des écoles qui ferment, un conseil scientifique qui est instrumentalisé pour dire « mais allez voter quand même !» Alors que sur les réseaux sociaux, les médecins généralistes, les urgentistes, les réanimateurs disent « mais ce sont des petites voix, surtout n'y allez pas, ça va être une catastrophe et ça ne va servir à rien ». Le premier tour a lieu, et dans les 48 heures, on annonce qu'il faut confiner. Olivier Véran, lui, il est arrivé quelque temps auparavant, il a fait un audit, il s'est rendu compte qu'il n'y a pas de masque. Vis-à-vis du ministère de la Santé et de la cellule de crise, en interne, ils discutent. Ça, les gens ne le sauront jamais, mais ils discutent, et il y a deux possibilités. Soit on dit tout de suite qu'il n'y a pas de masque, on le dit à la population et on le dit aux médecins, soit on gagne du temps. Et il fait un choix originel, d'un mensonge originel qui est de gagner du temps. Et il perd cette crédibilité que Thomas Meynier voudrait lui voir garder. Parce que les soignants vont demander ces masques pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, quatre semaines. Et le jour où Olivier Véran va dire on s'est retourné vers le placard et il n'y avait rien, il va falloir déjà remettre en question une politique économique libérale pour laquelle ça valait le coup de faire des économies qui vont nous coûter extrêmement cher. Et il est obligé de dire des choses comme, quand il y a un premier médecin qui meurt, il est obligé de dire, oui, mais les médecins se contaminent en dehors de l'hôpital. Mais c'est fini. C'est fini ensuite de la crédibilité de cette parole. Est-ce qu'il y a en France un patient que mes confrères ont vu qui n'a pas compris qu'on lui a menti sur les masques. Nous disions, nous, couser des masques, et on entendait tous les sachants gouvernementaux qui passaient pour dire, mais ça sert à rien en public. Et ensuite, on a entendu même Michel Simès, etc., dire, oui, mais on le disait parce qu'il fallait garder les masques pour les soignants. Donc, si vous mentez aux gens, il ne faut pas vous étonner qu'ils ne vous croient plus après.
Thomas Meynier.
Sur la question des masques, effectivement, il n'y en avait pas assez. Est-ce que dès le début, il était conseillé d'en porter ? Je ne crois pas que l'Organisation mondiale de la santé ait fait de recommandations en ce sens dans les débuts de la pandémie. Peut-être que ça m'a échappé. Mais force est de constater que, sauf erreur de ma part, ce n'était pas le cas. Et que toujours, les prises de décision allaient dans le sens de ce qu'on savait du virus, des recommandations de l'OMS, des recommandations des experts. Est-ce qu'un pays était mieux préparé que le nôtre à faire face à ce virus ? Je ne crois pas.
Bon, on peut dire que l'Allemagne, en tout cas, quand on le regarde après coup, tout le monde a l'air de dire que l'Allemagne était plutôt pas mal préparée, un petit peu mieux que nous peut-être. Peut-être justement par une organisation différente des structures de santé sur le territoire. Je ne sais pas, mais je...
Il y a une organisation différente du système de santé en Allemagne qui a effectivement des avantages, qui a peut-être des inconvénients. Il nous appartiendra de regarder ça de près une fois la pandémie passée. Force est de constater, je crois, en réalité, que personne n'était prêt à faire face à ce virus. Et que, je crois bien, on peut avoir des débats politiques. En l'occurrence, je crois que le docteur Lehmann amène le sujet politique sur l'économie libérale, etc. Je crois quand même qu'il faut regarder les recommandations des experts à cette époque-là. Il n'était pas question de porter des masques de façon systématique. Et de la même façon, aujourd'hui, on a des gens qui refusent le masque. Ce sont les mêmes qui en demandaient mois.
Bon. Je ne sais pas si c'est les mêmes. Il y a les moyens de le savoir si c'est les mêmes.
Bah, écoutez, moi, j'en entends quelques-uns qui avaient ces discours-là.
Christian Lehmann veut vous répondre, et puis je donnerai la parole ensite à Caroline Olivier et à Nive avant de vous la redonner, excusez-moi.
Thomas Meynier, vous nous dites que vous ne pensez pas qu'il y ait des pays qui étaient mieux préparés que la France. Je ne suis pas sûr que dans tous les pays, des soignants aient dû s'habiller avec des sacs poubelles. La réalité, car je vous accorde qu'il n'y avait pas de recommandation internationale de l'OMS sur le port de masques, simplement parce que internationalement, on s'est toujours un petit peu foutu de la gueule des Asiatiques. Mais clairement, les médecins sont censés avoir des masques en quantité suffisante et des masques, si possible, FFP2. Or, on a eu des masques de Schrödinger pendant 2 mois. On nous a dit qu'il allait y avoir des masques, qu'on n'a pas eu. Pendant des mois encore, la Direction générale de la Santé disait « on va vous distribuer des masques » que nous ne trouvions pas en pharmacie, alors que le gouvernement se féliciter de cet acheminement.
Sur ce point ou sur d'autres, Caroline Olivier et Nive, avant que je redonne la parole à Thomas Meynier.
Oui, je réagis sur l'objectif ou en tout cas l'incantation de la transparence qui est souvent activée dans le discours politique. Hein. C'est un topos classique, il n'est pas récent. Bon, on l'entend là encore.
Il a eu quoi, une vingtaine, une trentaine
d'années. Voilà, donc c'est quand même pas si. Enfin, pour les jeunes, pour mes étudiants, ils ont toujours entendu ça. Ouais. Hein. Ils ont grandi dans un monde où les politiques prétendaient être transparent, communiquait donc était transparent. Bon, là aussi, c'est toujours une question. Mon problème, c'est pas de savoir. Enfin, c'est la question de la contradiction interne au discours. On ne peut pas dire qu'on est transparent si, par exemple, dans le cas d'une commission des affaires sociales, on n'a pas des choses claires à dire après enquête, après audition. Voilà l'état de la situation des recommandations scientifiques sur les masques en mars 2020. Hein. Si on n'arrive pas à faire ça, on n'est pas transparent. Donc la problématique, là, par rapport au discours institutionnel et par rapport à la communication publique, c'est la question, c'est le fait d'éviter les contradictions internes. Hein. Toute contradiction interne, c'est comme la contradiction entre l'appel, l'injonction à la responsabilisation et puis le fait de la sortir de contraintes coercitives très fortes. On dit aux Français en mars, soyez responsables. Ah, mais quand vous sortirez une heure, il faut que vous signiez un papier. Bon, ça, c'est une contradiction. Et ça ne va pas dans le sens de la confiance. De même que la contradiction entre la transparence et le fait de ne pas être pédagogue ou de ne pas diffuser des informations exhaustives. Et c'est un sujet qui va se poser de manière vive au moment où on va mettre sur le marché un vaccin contre la COVID.
C'est la suite de cette histoire, voilà. Bien évidemment. Sur ce point, Thomas Mesnier, on voit bien par exemple que les préfets de Gironde, la préfète de Gironde ou encore le préfet des Bouches-du-Rhône ont pris des dispositions suivant les avis du conseil scientifique, imaginant sûrement qu'il y avait moyen d'arrêter un peu ce qui est en train de se passer dans ces départements. Est-ce que vous pensez qu'il faut aller encore plus loin? Est-ce que vous pensez que ça continuera et que d'autres départements vont s'y mettre? On entendait le président de la région PACA, Renaud Muselier, dire qu'il faut interdire les fêtes de mariage, par exemple, etc., etc.
Et ça, il m'appartient pas de le dire. Ce que je vois dans mon département de la Charente, c'est que l'épidémie, le virus progresse. Est-ce qu'il faudra remettre en place un certain nombre de mesures coercitives pour limiter cette propagation? Peut-être. Je ne le souhaite pas, mais peut-être. Je crois en tout état de cause que la population ne serait pas prête à accepter un nouveau confinement généralisé. Et qu'il faut tenir les mesures locales nécessaires pour endiguer la pandémie. On voit bien qu'en début d'été, le département de la Mayenne était très touché par le coronavirus, et que après différentes mesures mises en place, l'épidémie redescend.
Et sur ce point, Christian Lehmann, qu'est-ce que vous voyez, vous, sur le terrain, en tant que médecin généraliste à Poissy, dans les Yvelines?
Je vois que les gens craignent ce qui est en train d'arriver, c'est-à-dire que l'épidémie est en train de repartir. Ils sont conscients, je pense, comme nous sommes tous conscients, que heureusement, les mesures barrières entraînent le fait que les contaminations se font probablement avec des inoculums, c'est-à-dire des charges de virus plus faibles. Donc la plupart des gens font des maladies assez minimes, peu graves, mais probablement pas tous, mais ils voient aussi que le gouvernement a fait des choix. Il y a des gens qui nous écrivent, donc ils m'écrivent parce que je fais la chronique à Libération en disant « Je travaille dans un ministère, je travaillais très bien en télétravail, on nous a demandé de revenir pour l'exemple. » C'est incohérent. Et de la même manière, dans la nuit du 31 août au 1er septembre, des tas de gens qui ont des pathologies cardiaques et des pathologies pulmonaires et qui étaient en télétravail ou qui avaient des gens âgés chez eux, fragiles et qui pouvaient télétravailler, ont été renvoyés au boulot. Ils ont été guéris par un décret administratif qui me semble montrer que l'État a considéré qu'il fallait remettre l'économie en premier en se disant « c'est une pathologie qui est moins lourde ». On va laisser les Français l'affronter.
Caroline Olivier-Yaniv,
brièvement. Très brièvement, on entend un phénomène aussi assez classique dans le discours politique. Les hommes politiques font parler les Français, hein, ils sont légitimes à le faire. Hein. Là, on vient d'entendre, la population n'est pas prête à accepter un confinement généralisé. Les médias font parler les Français. Le Monde a écrit dans son édito il y a 2 ou 3 jours, les Français savent qu'ils doivent vivre avec le virus pendant plusieurs mois encore. Bon, la question, ce serait de savoir comment, dans les politiques publiques de gestion de cette crise, on prend la peine de faire un petit peu plus de concertation, de participation, en particulier lorsqu'il va s'agir d'expliquer qu'il y a un vaccin et pourquoi il faut se faire vacciner.
Sinon... Oui, je pense que cette émission, nous pourrons la refaire le jour où nous verrons arriver à l'horizon un nouveau vaccin et que ce sera encore une autre question. Merci à vous Caroline, Olivier, Yaniv. Je rappelle que vous êtes politologue, professeur à Paris-Est Créteil et co-directrice du CEDITECH. Merci à vous Thomas Mesnier, député LREM de Charente et médecin urgentiste, rapporteur général de la Commission des affaires sociales. Et merci à vous Christian Lehmann, on peut lire vos chroniques dans Libération, outre votre travail quotidien de médecin généraliste à Poissy dans les Yvelines. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Fanny Richet, Antoine Tricot, Rémi Baille, Hugo Boursier et Iman Gilles. À la technique aujourd'hui, Nasser Moussaoui. À la réalisation, Alexandre Manzanares. Merci à Caroline Chausset de la documentation sonore d'actualité. Et demain, et le temps du débat parlera de droit d'informer. Justifie-t-il d'avancer masqué?